Philosophie éthique, Père Philippe, 14 décembre 1983 à Saint-Joseph.
Donc de vertu, si vous voulez, mais d'habitus dans l'imaginaire, dans l'imagination. Nous avions vu précédemment qu'il y avait des habitus dans certaines puissances et que d'autres puissances n'en ont pas. Alors, pourquoi n'est-il pas d'habitus dans l'imagination? Est-ce qu'on ne peut pas coloniser l'imagination, permettre à l'imagination de se structurer un peu? Bien non, l'imaginaire demeure toujours anarchique, sans finalité. C'est le propre de l'imaginaire, sans finalité. Alors je peux dresser l'imaginaire, mais je ne peux de l'extérieur. Mais je ne peux pas, ce qui est toujours très dangereux du reste, ce qui est des refoulements après. Mais je ne peux pas directement permettre à l'imaginaire d'être ordonné. C'est très cru. C'est important de saisir ça. L'imagination demeure anarchique. Et elle est infinie, sans finalité. Elle est anarchique parce qu'elle n'a pas de finalité. Elle n'a pas de finalité, alors elle est obligée de se mettre au service. C'est ce qu'il y a de meilleur pour l'imagination, c'est de se mettre au service de l'intelligence, dans l'art. Et c'est par là que l'imagination acquiert une noblesse unique, parce qu'elle est au service. Parce qu'il n'y a que dans l'art où elle acquiert cette noblesse. Parce que quand l'imagination est au service du philosophe, le philosophe ne la traite pas très bien. Tandis que l'artiste la laisse venir. Et puis, il dit, mais oui, c'est très bien, j'ai besoin de toi. Alors là, l'artiste l'éduque, il la rend domestique, autant qu'un artiste peut éduquer et domestiquer quelqu'un. C'est assez particulier. Mais quand même, il a fait entrer un tout petit peu dans son giron. Tandis que lorsqu'il s'agit du philosophe, le philosophe, lui, il s'en sert sans du tout l'éduquer. C'est toujours très rude pour l'imaginaire, le point de vue philosophique. La philosophie recherche des principes au-delà de l'imaginaire. Ça, c'est sûr. Tandis que l'artiste, tout à fait différent. Vous verrez ça, j'ai vu pendant à Paris, vous savez, notre cher artiste Dominique Paponeau, mais le vert, je lui ai demandé de venir ici vous parler des tragiques grecs, parce qu'il les aime beaucoup, et venir nous donner lui-même, après nous avoir parlé des tragiques grecs, Eschyle, nous lire une pièce d'Eschyle. C'est intéressant, parce que ça vous aidera à entrer pour la philosophie grecque, ça complétera la philosophie et ça vous donnera un fond sonore, n'est-ce pas ? Ce qui est toujours utile, à titre de référence, de comprendre. C'est vrai, parce que si on ne peut pas entrer dans la philosophie grecque pleinement si on ne saisit pas le théâtre grec. Et il faut saisir le théâtre grec par quelqu'un qui est dedans. C'est mieux. Le philosophe, lui, il peut en parler, mais pas de la même façon que celui qui est dedans. Alors, il ne demande pas mieux de venir passer 2 jours ici. Très heureux de ça. Pour pouvoir entrer un peu plus en contact avec nous. Donc ce sera au mois de janvier pour bien entrer dedans. Vers le 20 et 21, je crois. Le 25 et 26, je crois. Entre parenthèses, ça, c'est pour vous montrer. C'est pour l'imaginaire. Parce que vous verrez la manière dont véritable artiste au niveau du théâtre peut éduquer son imaginaire. C'est très beau. Ça lui donne une flamme que quelqu'un n'aurait pas. Parce que c'est l'imaginaire qui nous donne une flamme. Ça, c'est sûr. C'est l'imaginaire qui fait que la flamme se voit. On a une flamme intérieure, mais sans l'imaginaire, elle ne se voit pas. N'est-ce pas ? Sous la cendre. Tandis qu'avec le point de vue imaginaire et le point de vue des passions qui alimentent l'artiste, alors ça flambe. C'est quelque chose qui peut faire un grand feu, qui est beau. Alors, entrons maintenant, si vous voulez, dans la prudence. Et vous verrez que pour l'homme prudent, l'imaginaire est mis au service de l'homme prudent. Mais l'homme prudent ne dit pas à l'imaginaire, viens chez moi, dans mon giron. Il n'y a que l'artiste qui dit ça. Très curieux. L'homme prudent a toujours un peu peur des poussées imaginatives et passionnelles. La prudence, nous l'avions vu, je reprends un peu la phronesis grecque. La prudence, elle naît à l'intérieur de l'intellect pratique. De l'intellect pratique au niveau proprement moral. C'est la sagesse morale, comme disaient les anciens, la prudence. Parce que c'est la plus haute vertu morale. C'est la clé de voûte de toute la morale, la prudence. Je pourrais dire telle morale, telle prudence. Vous verrez là tout de suite la différence. Ce serait très intéressant d'étudier toutes les diversités de morale et d'étudier par le fait même les diverses conceptions de la prudence. La conception de la prudence chez un stoïcien n'est pas du tout la même que la raison de prudence chez un aristotélicien. Pas la même. Deux conceptions différentes. La conception de la prudence d'un théologien n'est pas la même que celle d'un philosophe. C'est pour ça que quand vous prenez le traité de saint Thomas sur la prudence et que vous dites, voilà, je vais étudier la prudence comme vertu prudentielle au niveau philosophique. Vous faites une étude de théologie. Vous ne faites pas une étude de philosophie. Si vous confondez, vous allez contre le génie de saint Thomas. Et donc, vous faites une mauvaise propagande à saint Thomas. Parce que vous croyez que saint Thomas n'avait pas vu la différence entre la philosophie et la théologie. Il avait vu la différence. Alors, on essaiera d'y revenir, ça, parce que c'est très intéressant de voir comment la prudence doit être regardée d'un point de vue philosophique et la prudence d'un point de vue théologique. La différence entre l'éthique et la théologie morale au niveau théologique, c'est pas la même chose. Le philosophe, lui, va essayer, et c'est ce qui va l'intéresser, c'est de voir comment la prudence va naître. Le philosophe est toujours beaucoup plus éducateur que le théologien. Redoutable de tomber dans les mains d'un théologien qui vous éduque. Le théologien dirige mais n'éduque pas. Très curieux. C'est intéressant comme théologien, comme tel. C'est-à-dire que philosophe éduque. La païdéia est au niveau philosophique. Le philosophe demande d'éduquer. Pourquoi ? Parce qu'il essaie de voir les vertus dans leur état de naissance. Comment une vertu naît ? Elle naît à partir d'actes prudentiels, c'est-à-dire d'actes moraux, d'actes bons, où je dois exercer mon discernement. Et j'exerce mon discernement à des niveaux différents. Mon discernement, c'est-à-dire mon jugement, parce que le propre discernement, c'est le jugement, mon jugement au niveau proprement des intentions de vie. Le discernement. Nous en avons tous fait, alors nous avons pu faire appel aux différents moments où on a dû discerner, juger, crimen. Le discernement se fait premièrement au niveau des intentions de vie. Deuxièmement, au niveau du choix. Troisièmement, au niveau de l'impérium. Et ceci. Comme on dit. Je crois que c'est les trois niveaux où on doit voir le discernement. L'intention de vie, c'est le choix d'une finalité. Il peut y en avoir plusieurs, hein, finalités. Faire de la philosophie, c'est une certaine finalité. Tendre vers la vérité, c'est une certaine finalité. Ce n'est pas la finalité totale de la vie. Pour certains, ça peut l'être. L'option d'une communauté religieuse, c'est une intention de vie. Désir me donner de cette manière. Évidemment, vous allez dire que c'est chrétien. C'est très vrai, mais c'est toujours humain aussi. Le chrétien ne supprime pas l'humain. Donc il y a une intention de vie, donc une certaine finalité. Tandis que le choix porte sur le moyen. Et l'impérium joue aussi au niveau des moyens. Donc au fond, il y a quelque chose de très important à se poser la question. Est-ce que la prudence va naître au niveau du discernement des intentions de vie? Ou est-ce que, au niveau du discernement des intentions de vie, je n'ai pas besoin de la prudence? Et la prudence, alors, ne jouerait qu'à ce niveau-là, au niveau du choix d'impérium. C'est une question qu'il faut se poser. Il faut se poser la question. Parce que, si vous regardez saint Thomas, vous voyez que pour saint Thomas, la prudence, c'est au niveau du conseil, au niveau du choix, au niveau des périodes. C'est-à-dire au niveau des moyens. Pour saint Thomas, la prudence est ici. Je me pose la question, est-ce que je ne dois pas, au plan philosophique, regarder la prudence à un niveau plus fondamental? C'est-à-dire au niveau des intentions. Je me pose la question. Il faut être loyal au-dessus. Alors, ce serait intéressant ensuite de se poser la question, est-ce que ceci n'est pas le point de vue propre du théologien, et ici, le point de vue propre du philosophe? Si, de fait, la prudence doit aller plus loin, et doit regarder aussi le discernement des intentions. Hein, ce serait très intéressant, parce que ça permettrait de mieux, quand vous lisez saint Thomas, de mieux comprendre. Il est théologien. Ce que nous faisons ici, c'est d'essayer, nous, de regarder l'homme dans son différent développement, essayer de voir la naissance des vertus morales. Or, il y a une clé dans tout acte moral. Dans tout acte moral, il y a un discernement qui se fait. Tout acte moral implique le volontaire. Tout acte moral implique donc le jugement et un discernement. Un discernement qui se fait à des niveaux différents, au niveau des intentions de vie, au niveau du choix, au niveau de l'impérium. Et vous comprenez très bien que l'impérium présuppose le choix et le choix présuppose l'intention. Il ne peut pas y avoir un impérium sans choix, il ne peut pas y avoir le choix sans intention. Donc, c'est l'intention qui est à la racine. C'est pour ça que c'est si important. C'est à la racine de ma vie prudentielle, ou, c'est exactement, de ma vie morale. C'est l'intention de vie. Au fond, la vie morale commence quand j'ai une intention de vie. Quand j'ai choisi l'intention. Tant que je n'ai pas choisi l'intention, je reste dans un amour, je suis à un niveau fondamental, mais qui n'est pas encore explicitement moral. La responsabilité est ici. Tandis que lorsqu'il s'agit du premier amour, je ne dis pas qu'il est irresponsable, mais le premier amour, il s'impose à moi. Je l'accepte ou je n'accepte pas. Et ce premier amour devient une intention de vie dans la mesure où, justement, je comprends que cet amour spirituel peut être pour moi une intention de vie. C'est-à-dire que ce bien devient une fin. Il y a tout un discernement, là. Dès que je suis en face d'une intention, il y a un discernement, et un discernement qui se fait. Alors, je me pose la question, ici, est-ce que ce discernement des intentions de vie, va-t-il impliquer, exiger que il y ait une intervention d'une vertu particulière qu'on appelle la prudence. Autrement dit, la prudence va-t-elle agir jusque-là ? La prudence est reçue dans l'intelligence pratique. Est-ce que l'intelligence pratique a besoin de la prudence uniquement au niveau du conseil, du choix des moyens, ou a-t-elle besoin d'une intervention plus profonde de la prudence au niveau du discernement de l'intention de vie? Nous avons vu que l'acquisition d'un habitus était nécessaire en fonction d'une indétermination de la capacité d'opérer. Quand je suis en face d'une capacité, d'une dunamis, d'une puissance qui est parfaitement déterminée, je n'ai pas besoin d'acquisition d'habitus, puisque c'est parfaitement déterminé. Fondamentalement, ma volonté est déterminée vers le bien, elle est déterminée vers l'amour, il n'y a pas besoin d'un habitus pour aimer. Est le bien spirituel, c'est-à-dire une personne. L'amour d'une personne n'exige absolument aucun habitus. La volonté suffit. L'appétit naturel de la volonté suffit à s'expliciter dans cet amour à l'égard de. Mais quand il s'agit du passage du bien à la fin, alors est-ce que là, la volonté suffit avec l'intelligence? Ou n'y a-t-il pas, et nous l'avions vu, possibilité d'une intervention de l'imaginaire qui vient corrompre cette volonté en me mettant dans un état de velléité? Ça se voit très bien. Une corruption de la volonté, une corruption du premier amour. Cette volonté, ce premier amour spirituel, il est bon. Normalement, il demande de se fortifier en une intention de vie. Il arrive que l'aspect imaginaire et passionnel, la passion est dedans. Vous n'avez jamais un état imaginatif neutre. Ça n'existe pas. L'état imaginatif est toujours passionnel, plus ou moins coloré. Les passions très colorées et les passions qui veulent être neutres pour mieux se cacher. Ça existe. Je ne suis pas passionné du tout. Une objectivité absolue. Attention, grattez un peu, vous verrez que ce n'est pas l'objectif. La preuve, c'est que vous vous mettez en opposition, vous voyez que les dents sortent. Alors, vous voyez bien qu'il y a un état passionnel qui est derrière. Mais il y a toujours l'imaginaire et la passion, plus ou moins. Alors, puisque ce premier amour peut se corrompre, pourquoi il se corrompt? C'est ça qui m'intéresse, pourquoi il se corrompt? Il se corrompt parce que, à la place de l'intelligence, c'est l'imaginaire lié à la passion qui va prendre le temps. Et alors, à ce moment-là, ce premier amour spirituel devient une velléité. Et en devenant une velléité, il est anarchique. Il part dans tous les sens. C'est comme le velléitaire. Un homme velléitaire. C'est effrayant. Vous voyez, on est tous un peu heureusement, quoi. Mais quand ça s'empare, vous voyez, de ce que représente notre intention de vie, quand ça, là, ça devient terrible. On est anarchique, ça ne peut pas être autrement. On n'est pas anarchique dans le sens mauvais, on ne peut pas prendre un couteau et puis tuer quelqu'un. Mais on est anarchique dans ce sens qu'on ne peut plus. On est dépassé par l'imaginaire, on est dépassé par le passionnel, on est dépassé par cet état velléitaire, un état velléitaire, un état d'agitation velléitaire. On est agité, on n'a plus de repos, alors que l'amour est mon repos. Et l'amour est mon poids. Alors il n'y a plus ce poids. L'amour s'est dégradé. L'amour spirituel se dégrade. Pourquoi ? Parce que l'intelligence ne pénètre pas à fond cet amour spirituel. Et il n'y a pas le passage du bien à la fin. Au fond, l'imaginaire et le passionnel sont toujours anti-finalistes. Sont toujours en opposition vis-à-vis de la finalité. Et essaient d'empêcher que le bien devienne une fin. Alors, à ce moment-là, ceci, ça se voit, ça se constate, il suffit tout simplement de réfléchir un tout petit peu sur notre vie. Nous sentons très bien que ce passage de l'amour spirituel à une intention de vie exige une intervention d'intelligence qui ordonne. Toujours, l'intelligence ordonne. L'imaginaire n'ordonne pas, ça fait justement l'inverse. Ça maintient la confusion. On maintient exprès les confusions pour ne rien voir. Alors que le point de vue de l'intelligence ordonne. Il y a un ordre qui s'intervient dans cet amour spirituel, par l'intelligence, qui fait que je comprends la valeur de cette fin, la valeur de ce bien comme fin. Alors vous voyez, si de fait, l'imaginaire peut s'emparer de cet amour, il faut que l'intelligence se fortifie dans son discernement. Il faut que l'intellect pratique qui vient ordonner l'amour se fortifie puisqu'il peut être vaincu. S'il peut être vaincu, ça prouve qu'il n'est pas assez fort. S'il peut être vaincu, ça prouve qu'il n'est pas assez déterminé. C'est toujours celui qui est en puissance qui est vaincu. Toujours. Celui qui reste en potentialité, c'est un non déterminé. C'est toujours celui qui est non déterminé, qui n'est pas assez déterminé, qui est vaincu. Vous donnez une arme à l'ennemi dans la mesure où vous êtes indéterminé. C'est très bien. Les gouvernements indéterminés donnent des armes aux gouvernements très déterminés. Un gouvernement très déterminé, c'est très mauvais, ça n'a plus d'espace d'importance, il est très déterminé. Il n'y a pas la peine de consulter, mais déterminé. Tout de suite. Un instinct supérieur à nous. Alors c'est un super instinct déterminé. Alors à ce moment-là, tous les gouvernements dits démocratiques qui ne doivent pas se déterminer, qui se restent indéterminés, sont vaincus d'avance. Alors à ce moment-là, ils ne passent pas l'attention. C'est vrai au plan politique, c'est vrai au point de vue de notre petite politique interne. Alors il y a donc du côté de l'intelligence pratique des indéterminations radicales, ça ce serait important à saisir, des indéterminations radicales qui font que l'intellect pratique peut se laisser vaincre par l'imaginaire. Normalement, l'intelligence ne se laisse pas vaincre par l'imaginaire, parce que l'intelligence est d'une noblesse bien plus grande. L'intelligence a quelque chose d'infiniment plus grand. Comment se fait-il que l'intelligence puisse se laisser battre par l'imaginaire ? C'est parce que l'intelligence a une indétermination fondamentale. Et ça, ce serait une preuve pour montrer que l'intelligence n'a pas trop de forme a priori. Vous voyez ? Parce que si l'intelligence a beaucoup de forme a priori, elle ne se laisserait jamais vaincre par l'imaginaire. Mais puisque l'intelligence peut se laisser vaincre par l'imaginaire, ça prouve qu'il y a dans l'intelligence une indétermination radicale. Il y a une indétermination radicale dans l'intelligence. Elle ne se laisse pas conquérir entièrement par le point de vue du bien que je connais, ce bien spirituel. Parce qu'elle le connaît sous un mode universel. Alors elle ne se laisse pas entièrement conquérir. Et alors elle doit, puisqu'elle est indéterminée, elle doit posséder une nouvelle détermination. Et cette nouvelle détermination s'acquiert progressivement par la prudence, par cette vertu spéciale qui vient fortifier mon discernement et permettre à l'intelligence de pouvoir pénétrer plus avant dans l'amour spirituel, pour permettre à cet amour spirituel de devenir plus lucide, plus lumineux, et de s'imposer davantage à ma volonté et à mon intelligence dans l'intention de vie. Je crois que c'est là où intervient, vous voyez, fondamentalement l'intellect pratique perfectionné par la prudence. Le rôle éminent et premier de la prudence, c'est donc de permettre ce discernement au niveau de l'intention et de me fortifier contre l'imagination liée à la passion. Alors ça, ce serait très intéressant si c'est bien précisé, parce que ça montrerait comment les Grecs facilement font de phronesis une sagesse. La sagesse regarde la fin. Pourquoi, de fait, on trouve chez les Grecs constamment ce point de vue-là? Et saint Thomas le répète, du reste. Il dit la prudence, c'est la sagesse dans l'ordre pratique. Alors pourquoi dit-on que c'est la sagesse dans l'ordre pratique? Parce que, justement, la prudence regarde une intention de vie. Donc, elle regarde la fin. Si la prudence ne regardait que les moyens, elle ne serait jamais sagesse. Mais puisque la prudence est capable de regarder la fin et de fortifier mon intention de vie, de la déterminer beaucoup plus profondément, alors à ce moment-là, je comprends comment la prudence peut être sagesse. Parce que la sagesse, c'est ce qui regarde la fin. Tant que je ne regarde pas ma fin, il n'y a pas de sagesse. Tandis que là, il y a quelque chose qui me permet de détecter et de préciser comment ce bien spirituel devient ma femme, et d'ordonner à partir de là tout le reste. De sorte que je crois que philosophiquement, nous devons dire que le premier moment de l'intervention de la prudence, c'est au niveau du discernement de l'intellect pratique par rapport à l'intention de vie. Qui est clair, cela, et qui empêche la contamination de l'imaginaire et du passionnel. Deuxième moment, nous reviendrons après à la position du théologien. Il faut d'abord regarder le philosophe. Pour comprendre le théologien, il faut d'abord comprendre le philosophe. Vous savez bien, on ne comprend vraiment une théologie que quand on est philosophe. Autrement, on ne comprend rien du tout. Alors, il faut d'abord fortifier sa position philosophique, puis ensuite, on comprend comment le théologien dit ça. Tandis que si vous regardez le théologien tout de suite, vous ne comprendrez rien du tout. Vous répéterez. C'est quand même un saint théologien. Un niveau supérieur. Et c'est vrai, il est à un niveau supérieur, mais ce n'est pas parce qu'il a un niveau supérieur qu'il fait que la philosophie disparaît. Non, au contraire. Il faut être philosophe pour mieux comprendre la position du théologien. Alors, second moment du discernement, c'est au niveau du choix. Là, c'est encore plus palpable. Pourquoi? Parce que l'intervention de l'imaginaire passionnel à ce niveau est encore plus net. Quand il s'agit de choisir, le choix du moyen, surtout quand il s'agit de moyens importants, quand il s'agit de moyens tout à fait secondaires, savoir s'il faut mettre un cours à 2 heures ou à 3 heures, c'est un choix tout à fait particulier. Tout à fait secondaire, ça. Papa, c'est quand même un choix qui se fait prudentiellement, en fonction de. Donc, on fait ce choix en fonction de. Mais si on était uniquement à un niveau passionnel, la passion me fait choisir en raison de l'agrément du sujet. C'est le propre de la passion. Du concupiscible. Alors vous avez l'intervention des deux passions concupiscibles. Je choisis toujours le moyen qui m'est le plus agréable. à la place de choisir le moyen qui vraiment, objectivement, est le plus en comme naturalité vis-à-vis de la fin, je choisis toujours le moyen qui est le plus agréable. Le choix d'une place. C'est très incurieux, ça. C'est amusant à voir. On peut choisir. Je veux pas de... Mais il n'y a pas de complexe après. Je n'en fais pas l'analyse, mais on pourrait faire le choix d'une place, le choix de... tel livre qu'on prend, le choix. Tous les choix que vous faites, hein, quand vous choisissez un livre pour, de spiritualité, quand on choisit un livre pour le réfectoire, le choix d'un livre, alors ça peut venir de multiples. Un choix passionnel. Le choix passionnel, c'est de choisir ce qui est le plus agréable. N'importe où, tant pis, la fin, sans aucune espèce d'importance. Mais ça, c'est très agréable. Ça, c'est le choix passionnel du concupiscible. L'irascible, c'est de choisir le moyen qui mettra les gens le plus en état d'irritation. Alors, à ce moment, je choisis ce moyen qui est le moyen le plus difficile exprès. Ça fera bouillir les gens. De temps en temps, il faut faire ça. De temps en temps, c'est quand même nécessaire pour réveiller tous les rangs. Alors il faut les réveiller de cette manière-là. Là, je choisis passionnellement, je le sais. Il y a des gens comme ça, ça se voit, c'est visible. Alors, le point de vue du concupiscible et le point de vue des racines, qui l'emportent du côté de l'imaginaire, hein, et qui font qu'on choisit un moyen de cette manière-là. Et ce moyen n'est pas vraiment moral. Et si en plus de ça, on est doublé d'un artiste. Mais si on est doublé d'un artiste, hein, on prendra exprès un choix extraordinairement cocasse, absolument inédit. Personne ne l'a pris jusque maintenant. Et on pourrait le prendre, on peut le prendre, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Alors, à ce moment-là, on met ça en pleine lumière. Alors, si l'irascible est là pour mettre en irritation, ou le concupiscible, c'est curieux, hein, c'est très très curieux. C'est l'intervention de l'imaginaire et du passionnel au niveau du choix. Alors, parce que mon intelligence n'est pas assez forte, pas assez déterminée dans mon intention de vie. Mon intelligence, même si cette intention de vie est prudente, il restera toujours entre l'intention de vie et le choix un hiatus. Une distance quasi infinie. Parce que l'intention de vie porte sur une fin et l'autre porte sur un moyen. Aucun moyen n'est adéquat à la fin. Par essence, aucun moyen n'est adéquat à la fin. Si aucun moyen n'est adéquat à la fin, j'ai donc toujours une multiplicité de moyens. Et à cause de cette multiplicité de moyens, je peux exprès mettre en lumière passionnellement, imaginativement tel moyen et choisir celui-là. Et alors à ce moment-là, l'intelligence ne peut plus intervenir objectivement pour dire ce moyen, c'est vraiment celui-là que je dois choisir parce qu'il est le plus en conformité avec ma fin. D'où la nécessité que mon intelligence pratique dans son discernement à l'égard des moyens soit fortifiée du dedans. Et c'est la prudence. Et la prudence me donne une lumière plus grande. La prudence me donne un discernement plus aigu. C'est premièrement ça que fait la prudence. C'est une vertu de l'intelligence pratique. Et donc c'est du côté du discernement. Le discernement par rapport par rapport au lien du bien et la fin, par rapport au lien de la fin et des moyens. On discerne harmonieusement grâce à la prudence. On discerne ce qui semble être le plus en harmonie, le plus adéquat. Précisons, à l'intérieur de la prudence, un choix prudentiel pourra encore avoir deux tonalités. Puisqu'il peut être plus en conformité à la fin ou plus en conformité au sujet. Je sais très bien dans ma prudence que je suis fatigué. Je sais très bien dans ma prudence, parce que l'homme prudent sait s'il est fatigué. Il se tâte le pouls, pas tout le temps, hein, mais il sait qu'il est fatigué. C'est un manque de prudence de ne pas savoir si on n'est pas fatigué ou pas. On peut très bien aller au-delà de sa fatigue en sachant très bien que je peux le faire. C'est très bien, on dépasse, mais on le sait. C'est la lucidité, la prudence, hein, on le sait. On sait très bien ça, on sait très bien que oui, on le fait parce qu'on peut le faire. Ce sera difficile, entendu, mais pourquoi pas? Il faut de temps en temps faire des choses difficiles. Parce que si on ne fait jamais de choses difficiles, hein, on n'arrive jamais alors à dépasser l'horizon habituel, la grisaille habituelle. Il faut de temps en temps dépasser et faire quelque chose de plus. Alors là, c'est le point de vue de la prudence qui sait qu'on peut faire ce dépassement, y arriver à ce dépassement. Alors, il faut comprendre que si je suis fatigué, je vais prendre un moyen plus proche du sujet. Si au contraire, je ne suis pas fatigué, je vais prendre un moyen plus proche de ma fin. Donc, vous voyez, à l'intérieur de la prudence reste une souplesse. La prudence, ce ne sont pas des voies déterminées, à la différence de l'artiste. Et ça se voit tout de suite. Le tempérament artistique n'aime pas cette souplesse de la prudence. Ah, vous êtes toujours indéterminé. Vous avez dit ça hier et aujourd'hui vous dites l'inverse. Mais oui, parce que hier je ne savais pas que vous étiez fatigué, maintenant je sais que vous êtes fatigué, je dis l'inverse. Mais c'est évident, ce n'est pas artistique ça. Parce que la fatigue ne fait pas partie de l'art. Ça fait partie de la prudence. Un artiste ne doit jamais regarder la fatigue. Un artiste qui garde la fatigue, c'est un artiste mou. Et la mollesse pour l'artiste, ça ne va pas. C'est toujours un peu dur, l'artiste. Toujours. Parce que c'est l'intelligence qui domine. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'homme prudent, c'est l'amour qui domine. Alors l'homme prudent sait très bien qu'il peut y avoir ces deux aspects qu'il doit toujours regarder. Et c'est pour ça qu'il a toujours une très grande souplesse. Il n'y a pas de voie déterminée. C'est le propre de l'homme prudent. L'homme prudent est celui qui est attentif à toute la complexité des moyens, à la complexité de la situation dans laquelle il est, pour choisir. Et donc le choix joue un rôle très important dans la prudence. Et à côté du choix, il y aura le conseil. Le conseil, c'est un mini-choix. Oui, c'est un mini-choix. Je choisis pour l'autre, je te donne ce conseil. Ah, je ne peux pas choisir, ce n'est pas moi qui choisis, mais je te donne ce conseil. Oui. Alors c'est du côté beaucoup plus de l'intelligence. On ne s'engage pas, on s'engage quand même. Quand on donne un conseil à quelqu'un, on s'engage. Parce que si celui à qui vous avez donné le conseil continue de prendre le conseil que vous lui avez donné, vous êtes responsable avec lui du choix qu'il a fait. Je vous donne un conseil, vraiment. Étant donné ma vieille prudence de renard, hein, je vous dis qu'il faut faire ça. Dans cette circonstance, il vaut mieux faire ça. Vous allez voir, autrement, ça ne va pas aller. Bon, ça impressionne beaucoup. C'est un vieux renard qui dit ça. Ça impressionne beaucoup. Alors à ce moment-là, ah, vous m'impressionnez. Bon, je vais suivre votre conseil. Donc, si vous n'aviez pas donné le conseil, il aurait fait un autre choix. Donc, je vais suivre votre conseil, parce que j'ai confiance en vous, grande expérience, vous savez bien la situation, tout ça. Je suis votre conseil. Celui qui a donné le conseil est donc co-responsable du choix. Ce n'est pas lui qui définitivement choisit, mais il a influencé. C'est bien évident. Et plus son autorité est grande, plus le conseil est fort. Plus son expérience est grande, plus son conseil est efficace. Donc là, il faut faire attention. Quand je donne conseil à quelqu'un, je dois faire attention de savoir si mon conseil porte beaucoup ou si mon conseil n'a aucune espèce d'influence. Et quand vous voyez dans ce qu'on appelle un conseil, n'est-ce pas ? Alors un conseil, c'est plusieurs personnes qui se réunissent pour donner le conseil. Et alors à ce moment-là, il y a une rivalité de conseil extraordinaire. Et on sait très bien que ce n'est pas à ces moments-là que le conseil porte le plus. Si on est astucieux, on voit la personne avant le conseil. Et on dit, vous allez voir comment ça va se passer, c'est bien évident. Alors, faites attention, ne vous laissez pas piéger, n'est-ce pas ? Et soyez là attentif. Je vous donne ce conseil-là. N'est-ce pas ? C'est. Alors, vous voyez, on est le conseil fondamental. Étant donné les liens que nous avons entre nous, nous pouvons nous dire ça. Et c'est très vrai, c'est très humain tout ça. Et c'est la prudence. On sait qu'il y a un danger, on veut éviter. Alors, on fait la stratégie de l'enveloppement pour arrêter, pour empêcher. C'est vrai que quand on est devant certaines personnes qui affirment avec tellement de force, on se dit « attention, attention, est-ce que je suis en train de faire une bévue ? Est-ce que c'est mon imaginaire qui l'emporte ? Est-ce que c'est mes passions qui l'emportent ? Il y a quelque chose qui à ce moment-là faiblit en nous. Donc, la prudence est là pour permettre un conseil objectif. Et non pas un conseil passionnel. Enfin, la prudence va permettre l'imperium. Et ordinairement, on dira que l'imperium, c'est l'acte prudentiel par excellence. L'acte prudentiel par excellence, c'est l'imperium. On dira facilement ça. C'est juste et c'est pas juste, vous voyez ? C'est l'acte le plus, j'allais dire, le plus précis de la prudence. Et donc, au point de vue de la précision, c'est l'acte le plus intellectuel de la prudence. C'est là où le scapel prudentiel apparaît le mieux. Mais ce n'est pas l'acte le plus éminent. L'acte le plus éminent, c'est le discernement à l'égard des intentions. Ça, sûrement. Alors, là encore, il faut bien comprendre la nécessité de l'acquisition de la prudence à ce niveau de l'imperium, parce que l'imaginaire, même quand le choix est très bon, quand le choix est excellent, l'imaginaire peut encore intervenir pour empêcher le choix d'être appliqué au bon moment. Ça, c'est très curieux. J'ai choisi, mais j'ai des arrière-pensées. Au fond, j'étais un peu forcé, je ne pouvais pas dire autrement. J'avais déjà donné ma parole. J'étais obligé de faire ça. Oui, j'ai choisi, c'est vrai. Et ce choix est prudentiel et objectif. Mais au-dedans de moi-même, je dis... Alors, qu'est-ce qui va se faire ? Complicité avec l'imaginaire et les passions pour faire échouer l'application. Le choix est excellent, mais on ne va pas l'appliquer au bon moment. La dernière minute, on aurait de ses fruits effrayants et on n'arrivera pas à l'imperium. Il peut y avoir ces complicités-là. On sait bien, c'est un peu lucide, on sait bien ça. Le choix était bien fait, oui, on l'a reconnu. Il y a des idées, mais il faut passer à l'imperium. L'application fait ceci. Et on passe à l'extérieur à ce moment-là. Il y a quelque chose de nouveau. Donc il y a de nouvelles difficultés. Il y a des nouvelles difficultés. Tant qu'on reste dans l'immanence, on est seul juge. L'impérium me fait passer devant tous les autres. C'est le fort externe, comme on dira. Ici, c'est le fort interne. Et alors, nécessairement, quand il s'agit du fort externe, il y a des quantités d'autres éléments qui impliquent. Il y a tout un aspect politique qui intervient. Il y a le jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils vont me dire quand ils verront ça ? Tant que je suis seul, très bien. Je suis avec un être intelligent, il comprendra. Tandis que quand je suis sous le regard des autres, je sais très bien qu'il faut accepter que parmi les autres, il y en a qui ne sont pas intelligents. Et alors, par le fait même, je serais bombardé. Immédiatement, je serais jugé. Et comme celui-là, ainsi de suite. Vous voyez, on voit très bien, ce film-là a une grosse importance, ben, c'est... et je sais très bien qu'il guette la bêtise que je peux faire, il guette le moment où il pourra y avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Alors à ce moment-là, j'ai une espèce de frousse qui va augmenter, qui va mettre dans une inhibition très grande, l'inhibition passionnelle qui empêche de passer à l'impériorité. Ça existe, surtout chez les gens intelligents. Donc dites-vous que ça existe. Ça existe surtout chez les gens intelligents qui ont leur intelligence particulièrement pénétrante, qui connaissent parfaitement le milieu dans lequel on se trouve, qui connaissent parfaitement les vulnérabilités qu'on peut avoir. Ils connaissent ça parfaitement, une lucidité parfaite. Donc l'inhibition sera encore beaucoup plus forte. Et à cause de l'imaginaire et le passionnel lié à ça, on arrêtera. On n'ira pas jusqu'au bout. On n'aura pas la force d'aller jusqu'au bout. D'où nécessité, dans l'intellect pratique, d'avoir cet élément nouveau de la prudence qui va intervenir au niveau de l'impérieux. Pour quand j'ai choisi quelque chose, je vais passer à l'application au bon moment. Donc garder toute la lucidité de l'intelligence, sans être trop impressionné par l'opinion des autres. Et ça, c'est beaucoup. C'est l'intelligence, vous voyez, qui va jusqu'au bout de ses exigences, jusqu'au bout de ses exigences dans l'ordre extérieur. Alors, il restera la question, pourquoi le théologien saint Thomas ne dit-il pas tout à fait ça ? Intéressant, si on veut être un peu comme saint Thomas, quand même, est intelligent, qui dit des choses qui sont remarquables au point de vue de l'intelligence, pourquoi ne dit-il pas ça? Le point de vue différent,